Tommy Ungerer nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi et je l'avais reçu dans l'émission il y a tout juste un an. C'était un homme en colère, à fleur de peau, un homme qui ne mâche pas ses mots. Je n'oublierai jamais notre rencontre, une des plus fortes que j'ai vécues. Entre coups de gueule et séduction, j'étais sortie du studio KO, mais heureuse. Tommy Ungerer, lui, était enchanté. On s'était compris, avait-il dit. On recommencera une prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est pourquoi nous vous proposons, en hommage à ce grand bonhomme, de réécouter sa journée particulière, la journée particulière de Tommy Ungerer, diffusée le 8 avril dernier.
Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Tommy Ungerer. Bonjour Tommy.
Bonjour, bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Tommy Ungerer, vous êtes auteur, illustrateur, inventeur d'objets, affichiste, dessinateur, bref, vous êtes un artiste. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous va?
Oui, je suis un touche-à-tout, voilà.
Voilà, vous êtes un touche-à-tout et vous avez choisi comme journée particulière une journée du mois d'août 1946. Ce jour-là, vous avez vu pour la première fois la mer.
Sur les plages de la Manche, voici 2 ans, dans l'aube, née d'une nuit de 4 années, éclatait cette forteresse européenne dont Hitler avait voulu faire pour un règne de 1000 ans l'inexpugnable prison de 20 peuples. Ici, les Alliés débarquèrent. Ici, gît l'orgueil allemand. Pour seul, c'est ici que commença le débarquement. Et la plus belle commémoration cette année sera été ce geste émouvant des enfants de la côte allant jeter des fleurs dans l'eau qui ramena le 6 juin 44 la victoire et la liberté.
Alors, je sais pas, vous étiez en train de me dire, ça c'est plutôt patriotique. C'est une archive de juin 46.
Oui, d'abord, avant, je voudrais spécifier, pour moi, la mer, vraiment, c'est l'océan.
Ah oui, mais la première fois que vous avez vu la mer, c'est sur ces plages-là,
exactement,
ces plages du débarquement.
Dans le Cotentin.
Dans le Cotentin.
Près de Sainte-Mère-l'Église, dans un endroit qui s'appelait Fermanville.
Alors, comment c'est... Racontez-moi l'éblouissement de la découverte. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous la voyez?
On était venu, c'était d'abord tout un périple à l'époque après la guerre pour traverser la France.
Il fallait, parce que vous veniez d'Alsace.
Non, les trains étaient pleins, il fallait emmener de la nourriture avec soi, etc. C'était le pique-nique roulant, littéralement.
Et vous avez traversé, en 46, comme ça, vous avez traversé une France en ruine, j'imagine.
En ruine, et c'était la première fois pour moi, Alsacien, que j'étais en France.
Ouais, c'est ça.
C'est donc la première fois que j'étais en France. J'en avais entendu parler, évidemment, mais je savais qu'elle existait.
Et pourquoi vous étiez venu
en
France?
Mais enfin, elle avait quand même encore de beaux restes.
Ah oui, tant mieux. Et pourquoi vous veniez en France, alors, en août 46?
Ah ben voilà, c'est tout simple. J'étais dans la poche de Colmar. Donc, la poche de Colmar, c'était la dernière tête de pont des Allemands de l'autre côté du Rhin.
C'est là où ils ont voulu résister le plus longtemps possible.
Les Allemands ont tenu là pendant 3 mois. Jusqu'au 2 février 1945. Et là, évidemment, j'ai vécu la guerre comme un soldat d'infanterie. C'était assez sensationnel. Ça m'a, disons, marqué pour la vie, ce genre de choses-là.
Oui, parce que vous aviez 8 ans quand l'Alsace a été annexée par les Allemands.
Évidemment, nous avons été aussi sous pas mal de bombardements, en général en piqué. C'était surtout de l'artillerie, des tirs de barrage. Et... dans l'armée de la libération, ce qu'on appelait la libération à l'époque, qui n'a pas absolument été pour moi par la suite, ma sœur a rencontré un pilote de chasse de Normandie, d'escadrille Normandie-Niémen.
Et elle est tombée folle amoureuse.
Oui, tous les deux d'ailleurs. Et donc, ce qui explique le mariage en Normandie.
Ah, c'est pour ça que vous êtes venu.
Oui,
donc,
et
pour
nous
marier...
sommes venus pour le mariage. Je me rappelle ma sœur qui avait un grand talent aussi de couturière et qui faisait déjà beaucoup de design de mode. Elle avait fait les robes de mariée avec des rideaux. Ah. Je me rappelle. On est parti avec les rideaux en robe de mariée. Et on est arrivé, on a dû passer par Paris, évidemment, et puis ensuite on a continué sur le Cotentin. On est arrivé à Cherbourg, et puis ensuite, quelqu'un est venu nous chercher en voiture, et tout à coup j'ai vu la mer. Et j'ai dit arrêtez, arrêtez, et puis j'ai couru, comme un essoufflé, vers cette première ligne. C'est la première fois que je découvrais la ligne d'horizon. Ça m'a mis dans un état de choc, et je le dis encore de nos jours, que c'était le moment le plus important de ma vie. Pour moi, la découverte de la mer et de la ligne d'horizon, ça a été comme une sorte de libération. Ça a été ma vraie libération. Et depuis, j'ai toujours eu besoin de la mer, je l'ai recherchée. Et plus que jamais, maintenant, comme on en parlera ensuite, en Irlande, je vis sur les falaises.
Aujourd'hui, voilà. Maintenant, voilà. Vous vivez face à la mer.
Et c'est toujours ce qui me manque en Alsace.
La mer.
Oui, il faudrait déjà l'inonder.
Oui, c'est ça. Mais dites-moi, de cette mer que vous découvrez ce jour du mois d'août 1946, quelles images vous restent ?
Il y avait la plage. Et il y avait encore les bunkers, évidemment.
Bien sûr.
Qui déjà commençaient à baisser un peu la tête. Hein. Oui, parce que c'était bâti sur le sable. Quel symbole que tant de béton soit versé sur une plage pour simplement finalement se culbuter dans les vagues comme un dé.
Et vous vous souvenez de l'odeur du sel ?
Oui. Écoutez, alors... Non, ça je me rappelle pas. Mais l'odeur de la mer, mais c'est pour moi sans doute le plus beau parfum. D'ailleurs, on devrait pouvoir voir des vaporisateurs, des déodorants avec l'odeur avec de l'iode et l'odeur de la mer et des algues.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. On pourrait avoir des algues au lieu d'avoir des poils sous les aisselles, sous les bras.
C'est une bonne idée. On peut lancer cette mode si vous voulez. Ça me va, moi aussi.
Oui, oui.
Ce jour-là d'août 1946, donc Tommy Ungerer, vous voyez pour la première fois la mer, vous mangez pour la première fois du camembert.
Voilà, exactement.
Alors moi, comme j'adore le camembert, je trouvais que c'était important qu'on parle de ça aussi.
Je préfère le pont Lévesque.
Ah pardon, alors.
Et finalement, le Livaro en fin de compte.
Mais enfin, vous goûtez à la gastronomie française pour le mariage de votre sœur. Vous découvrez ces saveurs-là, ces goûts-là.
Oui. Et puis alors aussi le beurre de Normandie qui était jaune, alors que chez nous, le beurre, il est blanc.
Et c'est aussi la première fois, donc en août 46, donc c'est la première fois, vous le disiez tout à l'heure, que vous entrez en France, mais c'est aussi la première fois que vous entendez, comme vous le dites, du bon français. Parce que vous venez d'Alsace, vous étiez un enfant pendant la guerre, pendant l'annexion de l'Alsace par les Allemands, et donc l'allemand était la langue qu'on vous avait.
J'ai vécu ensuite l'annexion des Français par la suite.
Absolument, mais l'allemand a été votre langue, la langue obligatoire.
Oui, donc avant la guerre, je parlais le français et j'ai dû apprendre l'allemand 3 mois. Et puis après ça, même un bonjour et un merci, on pouvait être arrêté.
C'est ça, si vous disiez du français,
déjà,
vous parliez français.
Oui. Et alors, j'ai vécu d'aller avec des wagonnets pour ramasser des livres français, pour les brûler.
Alors ça, je ne savais pas. Je l'ai appris en vous lisant qu'on avait brûlé des livres français.
Je suis l'une des rares personnes qui a vu des bûchers de livres 2 fois. Parce que quand les Français sont revenus, ils ont brûlé tous les livres allemands de la superbe bibliothèque qu'il y avait au lycée.
Terrible.
Et j'ai vu Schiller et Goethe partir en flammes.
Vous vous souvenez de la libération de l'Alsace, c'est quand des nouveaux instituteurs sont arrivés pour reparliez le français.
Ça je l'ai bien décrit dans mon livre « À la guerre comme à la guerre ».
C'est ça.
Oui.
Alors écoutez, on a retrouvé une perle pour vous. Une archive, c'est une perle. Écoutez ça.
L'événement qui nous a amenés avec notre quart d'enregistrement dans ce petit village alsacien est en soi assez extraordinaire. Il s'agit de l'ouverture de la première école en Alsace. Il s'agit de la première classe en français qui ait lieu en Alsace depuis 4 ans. Celles-là et ceux-là n'ont pu fréquenter que l'école allemande. Théoriquement, ils ne savent pas un mot de français. Leurs parents, sous peine de camp de concentration, ne devaient pas s'évader du dialecte alsacien.
Présent.
C'est le premier mot qu'ils aient appris et qu'ils prononcent encore avec une touchante maladresse. Ils ont eu vite fait aussi, ne trouvez-vous pas, de réapprendre leur prénom français. On leur avait pourtant fait germaniser.
Bonjour, monsieur. Hein?
Voilà une assez belle preuve, je pense, que 4 ans d'annexion ne suffisent pas à changer l'eau en vin et à faire des petits Allemands avec de la graine de français.
Alors, comment vous réagissez à ça ?
Oh, ça me fait mal, hein ?
Qu'est-ce qui vous fait mal ?
Oh, bah, mais c'est ce genre d'attitude. J'en ai assez souffert. Hein.
Ah, c'est ça, de
alors,
la façon dont...
Ça réveille ma colère. Hein.
Ah bah très bien, ça m'intéresse.
Alors, carrément, alors là, franchement...
Parce que c'est comme ça qu'on vous parlait.
Ça me fout la nausée. Hein.
C'est ça, parce qu'on vous parlait comme
et
si vous étiez...
Vous savez, les nazis, c'était le lessivage du cerveau, mais on était heureux à l'école. Quand les Français sont revenus, hein, ça n'a pas été rigolo du tout. Hein.
Ça s'est passé comment, justement ? C'est pour ça.
Bon, on a été punis de 2 heures de retenue pour un seul mot d'allemand ou d'alsacien. Et puis moi qui me passionnais déjà pour la littérature française, mon professeur me disait « Perdez votre accent avant de vous intéresser à la littérature ».
Il y a eu beaucoup de mépris, c'est ça ? Beaucoup de mépris pour les Alsaciens.
Surtout, oui,
c'est ça qui vous met en colère,
oui,
le mépris ?
Par le mépris. Oui, justement, c'est le mépris.
Le mépris pour ces enfants qui sont en train de prononcer
pour
avec...
Pour moi, c'était le temps du mépris, de la part des professeurs, parce que c'était des professeurs qui revenaient avec une vengeance. Je n'avais pas ça du côté des petits Français qui étaient avec nous en classe. Mais nous, on avait déjà perdu 2 ans, vous voyez ce que je veux dire.
Et pourquoi vous dites vengeance ?
Comment...
Vous dites, ils sont venus avec une vengeance.
Ah oui, avec un esprit de vengeance. Nous, comme enfants, on a été traités comme des collaborateurs.
C'est ça.
Alors que c'est la France qui a collaboré avec les Allemands pendant la guerre. Hein.
Mais on vous faisait porter cette culpabilité-là.
Et alors, ce qui était quand même bien formidable, les jeunes les plus sympathiques, c'était les Juifs, en fin de compte. Alors là, on n'avait aucun problème. Et j'avais aussi un professeur juif, M. Samuel, qui était impeccable. Aucun problème
et
de ce
côté-là. Et qui n'avait pas été déporté.
Il ne faut pas oublier aussi que l'Alsace, à l'époque de la Révolution française, entre 70 à 80% des Juifs en France étaient en Alsace. Et tous les Juifs alsaciens qui ont été envoyés à Auschwitz, c'est la police française qui les a arrêtés. Hein.
Et ça, vous avez découvert ça
je ne l'ai jamais digéré.
Non.
Non, c'est non, si je l'ai digéré, mais disons avec des cailloux.
Avec des cailloux. En tout cas, enfant, vous dessiniez déjà beaucoup et vous aimiez caricaturer ces nazis, ces Allemands. Vous en êtes donné à cœur joie.
Oui,
c'est impressionnant vos dessins d'enfants.
Non, ma mère était chauvine. Pour elle, tous les Allemands et tous les catholiques, ils allaient aux enfers. Ça, c'était.
Cette mère qui a continué à parler français alors que c'était interdit.
Ah oui, ça nous a attiré bien des histoires. Mais là, il faut mieux lire le livre.
Oui, je suis d'accord. À la guerre comme à la guerre.
On en est encore à la ligne d'horizon.
Donc on est à la ligne d'horizon. Donc on avance.
Voilà.
On continue. En 1946, en France, on découvrait cette musique-là, jamais entendue jusque-là, Louis Jordan, Caldonia.
Walking with my baby, she got great big feet. She long, lean, and lanky, and ain't had nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what makes your big head so hot? Ma, I love you just the same. I'll always love you, baby, cause Caledonia is your name. No kidding, that's what she told me. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. She's bad for your morale. She have you doing things that ain't right. Mama didn't know that I was in love with Caledonia, so I'm going down and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What makes your big head so hot? Mama.
Bon, est-ce que le disque vous a permis de récupérer de votre colère, Tommy Ungerer?
Non, pas vraiment.
Mais je pense que la suite va vous aider.
Mais non, ça m'a un peu calmé, disons.
Bon, voilà, la musique vous a un peu calmé, mais vous savez,
je suis aussi irascible que l'océan.
Justement. Oui. Et que le vent? Est-ce que vous êtes aussi irascible?
Ah oui, je suis un passionné de vent. J'écris énormément sur le vent.
Alors écoutez. Colère. Là, il n'y a plus de colère, ça va mieux, ça y est.
Ah non, là, pour moi, le vent, c'est la plus belle musique.
C'est magnifique.
C'est la plus belle musique. Pour moi, le vent, j'ai écrit énormément sur le vent, constamment.
Vous avez une passion pour le vent et pour les différents sons du vent.
Oui, pour les différents sons du vent, n'est-ce pas? Le vent... Évidemment, si je suis dans le vent avec une bouteille, ça risque de résonner comme une flûte. Vous voyez ce que je veux dire? Le vent qui chante à travers une fente
ou une porte, et
qui ronfle carrément dans la cheminée. Et le vent a des variantes absolument à n'en pas finir, qui sont très très subtiles. Je connais qu'un seul équivalent dans le fond dans la musique, c'est Oum Kulsoum peut-être.
Ah, Oum Kulsoum.
Là je peux l'écouter pendant des heures, comme je peux écouter le vent pendant des heures. Il y a une chanson qui était chantée aussi pendant la guerre par ma chanteuse préférée. Maintenant j'oublie son nom, Sarah Leandre.
Oui.
Et alors elle chantait une chanson en allemand et en français, c'était très marrant, parce qu'elle aspirait, et elle a aussi chanté en français. J'ai un vieux 78 tours d'une chanson qui s'appelait « Le vent m'a dit une chanson ».
Ouais. «
Le vent m'a dit une chanson qui doucement berce mon cœur ». Voilà, ça faisait à peu près comme ça.
Mais vous auriez pu être chanteur, hein, Tommy Ungerer.
Oh non, ça m'a toujours amusé de chanter. J'adore chanter.
C'est le souffle, comme voilà. Le vent.
Oui, oui.
Alors, est-ce que c'est pour écouter le vent ou est-ce que c'est pour voir
la
mer?
Ce qui est bien avec le vent, c'est qu'il n'est jamais à bout de souffle.
Oui, absolument. Alors, est-ce que c'est pour écouter le vent ou regarder la mer que vous embarquez sur un cargo en 1951?
Non, c'était plutôt pour me déplacer. Alors, il faut bien comprendre que dyslexique, alsacien, sale boche, j'ai foutu
lourd.
Le camp.
Ouais.
Alors, j'ai loupé mon bachot,
ouais.
Et là, j'ai fait mon rucksack. Et je suis parti.
Ah, ton rucksack, oui. C'est votre sac à dos en allemand.
Je suis parti en Laponie où j'ai traversé le rideau de fer. Et puis, à mon deuxième voyage, je me suis embarqué sur un petit cargo norvégien.
Et vous alliez où avec ce cargo?
Et j'allais en Islande, par les îles Féro.
Et qu'est-ce que vous faisiez?
C'était vraiment un petit cargo qui n'avait qu'un grand tank avec de la soude caustique. Il amenait toute la soude caustique dont l'Islande avait besoin.
Et vous étiez marin?
Il n'y avait que 5 hommes à bord.
Et vous étiez marin?
Non, ils m'ont pris comme ça, mais j'ai dû apprendre à être marin, parce que quand vous êtes 5 hommes à bord, vous divisez 24 heures, ça fait tant et tant d'heures à la barre. Donc j'ai dû bien apprendre la barre, et tout ce qu'on m'a dit, reste dans la vague. Toujours avec le nez dans la vague, sauf la nuit, on ne voit pas la vague. Mais enfin, à part ça, ce qu'il y avait vraiment de spécial, d'abord c'est un équipage formidable, norvégien, et alors, devant la barre, il y avait une boîte, et là-dedans, et c'était le capitaine qui a trouvé dans un port un dachshund, comment est-ce qu'on dit, un basset, vous savez, les longs chiens, et un sadique lui avait coupé les quatre jambes. Donc c'était un grand saucisson vivant qui était là dans sa boîte et qui à longueur de journée, avec le roulis et le tangage, roulait dans sa boîte et toujours en te regardant dans les yeux. C'était incroyable. Je n'oublierai jamais le regard de ce chien qui me regardait avec une tendre tristesse.
Ah oui.
Voilà.
Alors on va continuer la route,
voilà,
hein, parce
que
après le cargo norvégien, vous partez ailleurs, mais jamais loin de l'océan.
François, papa et maman sont allés à New York. Ce qu'ils ont vu, eh bien, regarde-le à ton tour. Tu as vu cette maison qui n'en finissait pas, c'était l'Empire State Building. C'est le plus haut monument du monde. Il faut monter 86 étages pour voir une ville sous cet aspect. s'il y a une panne d'ascenseur. Ouf, tu restes en bas, ça vaut mieux. Au loin, Central Park et Rockefeller Center. Cette rivière, c'est l'Hudson, curriculum vitae. Il sort des Adirondacks, saute 25 mètres à la cascade de Glens Falls. Il lui arrive encore bien d'autres choses et il finit par se perdre dans la baie de New York. Il pourrait se perdre plus mal. Toujours dans la brume, la pointe de Manhattan.
Tommy Ungerer, en 1956, vous avez 24 ans et donc vous débarquez à New York. Vous arrivez, vous n'avez rien, vous avez 60 dollars en poche,
voilà,
plein de dessins, vous en aviez ras-le-bol de la France.
Et puis une amie, une copine chez laquelle je pouvais habiter.
Voilà.
Et sous alors... un autre nom d'ailleurs, parce que le concubinage était interdit à l'époque, et j'étais Monsieur White.
Monsieur White.
Et c'est très curieux parce que j'avais déjà eu deux copines américaines avant, et l'une c'était Lois Black,
ouais.
et l'autre elle s'appelait Gray.
Ah.
Alors entre Gray, Black and White, vraiment, c'était ma troisième couleur.
Donc comment c'était New York?
Ah, je suis tombé amoureux. Et pour moi, c'est resté vraiment là. N'est-ce pas? Il faut bien comprendre que New York, c'est pas les États-Unis. Et surtout non. À l'époque de McCarthy, tous les gens qui en avaient marre de ces, disons carrément des persécutions et venaient, c'était une ville de réfugiés. Autant de réfugiés américains qu'ailleurs.
Et de contre-culture.
Et alors, il faut une chose. Moi, le coup le plus dur qui m'est tombé dessus aux États-Unis, c'était encore la ségrégation, le racisme.
Alors ça, vous avez fait des affiches contre ça, vous êtes battu contre ça.
Non, non, mais déjà au début, parce que le père de Nancy, qui était donc avec laquelle je vivais, était shérif à Amarillo, Texas.
Ah oui.
C'est pour ça qu'il y a tant de shérifs. Et là-bas, j'ai vraiment découvert le racisme et la ségrégation. L'ironie, n'est-ce pas? Ce sont les Américains qui sont venus nous libérer du fascisme, donc du racisme. Et on arrive chez eux... Et heureusement, il n'y avait pas de ça à New York. Enfin, pas grand-chose. Mais New York, ça a toujours été un pot-au-feu, quoi.
Un pot-au-feu?
Il y a de tout, quoi. Enfin, une paella.
Il y a de tout, voulez. C'est mélangé.
Voilà, exactement, oui.
Alors, à New York, c'est là où vous avez publié votre premier livre. C'est là où vous avez eu...
Ah, c'est parti en vitesse.
Voilà, c'est ça. C'est le succès qui commence.
Pratiquement immédiat.
Voilà, vous écrivez là-bas votre best-seller.
Au prix d'un travail énorme.
Bah oui, j'imagine. Oui. Les Trois Brigands, c'est là-bas.
Oh, ça, c'était plus tard.
Oui, mais oui, c'est encore à New York.
Oui. Ah oui, et comment?
Voilà, c'est le succès. Vous publiez,
New York,
vous dessinez.
À New York, je sortais en moyenne 4 livres par an.
Oui, c'est énorme. Et puis d'un seul coup, alors, enfin pas tout à fait d'un seul coup, les choses ont tourné vinaigre à New York. Vous êtes devenu
personne. Oui, c'est aussi un peu de ma faute, parce que je ne faisais pas seulement des livres d'enfants, mais j'étais aussi pour moi, l'érotisme a toujours été une chose très importante, et puis toutes ces choses, vous voyez ce que je veux dire.
Très bien, alors vous avez...
Parce que, quand même, j'allais dire, le bas-fond de l'Amérique est quand même, dans le temps, était essentiellement quand même anglo-saxon. Donc puritain, et à partir du moment où on a le puritanisme, il n'y a pas de puritanisme sans hypocrisie. Pour moi, il n'y a pas de tabou.
Non, pour vous, il n'y a pas de tabou, mais vous les avez heurtés et on s'est dit que vous étiez... Enfin, on disait en Amérique que vous étiez un pornographe et que donc vous ne pouviez pas continuer à écrire pour les enfants.
Ah oui, ça carrément. Oui,
et
oui,
on
ça...
a mis vos livres à l'index.
Oui, par la suite. C'est-à-dire que tous mes livres, même mes livres d'enfants, ont tous été interdits dans les bibliothèques américaines.
Alors, à cause de votre livre sur la sexualité ou à cause de vos propos sur la ségrégation raciale?
Non,
vos partis pris contre la guerre du Vietnam?
Pour une raison complètement différente.
Ah bon?
Non, c'était lorsque De Gaulle a été le premier à reconnaître la Chine,
ouais,
et établir une ambassade. Moi, je suis quand même citoyen français. Et pour la revue Newsweek, j'aurais été l'un des premiers reporters à aller en Chine. Et alors j'étais à Paris, j'attendais, heureusement que j'ai pas eu mon visa, parce qu'il y a un téléx qui est arrivé, et le téléx disait que si j'allais en Chine, je ne serais plus autorisé de retourner aux États-Unis.
Parce que suspecté de communisme.
Oui, et j'ai laissé tomber mon voyage. Et alors, moi, j'ai passé la douane à New York sans aucun problème. Et dans le hall, j'étais tout à coup entouré par un mec à ma droite, identique, vous savez, comme au cinéma, à ma gauche, à ma droite, et un derrière moi. Et là, il me dit à l'oreille, « Drop your suitcases and follow us quietly. » Laissez tomber vos valises et suivez-nous tranquillement. Donc, je laisse tomber la valise, le type derrière prend la valise, et les autres m'ont tout de suite empoigné sous le bras et m'ont embarqué dans une voiture.
Et après ?
Oh, après ça, j'étais interrogé. Ils ont même ouvert les semelles de mes chaussures. J'étais accusé d'être d'un communiste. C'était une époque où aux États-Unis, un collectionneur de timbres n'avait même pas le droit d'avoir des timbres chinois dans sa collection. Alors vous rendez compte, moi qui voulais aller en Chine, j'étais classé. Pendant un certain temps, jusqu'à l'élection de Kennedy, j'avais mon téléphone et mon courrier était ouvert, mais sans gêne, vous voyez, pas à la vapeur, carrément, etc. Et ils savaient déjà que je jouais au poker avec l'ambassadeur cubain aux Nations Unies.
Alors ça n'a pas plu, j'imagine.
Alors là, à ce moment-là, j'ai atterri sur la liste noire. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Mais en fin de compte, c'est une accumulation d'histoires, une accumulation aussi de situations, et de ma part de provocation. N'oubliez pas que je suis agent provocateur et que...
J'adore quand vous dites ça, parce que vous dites ça avec un petit air sage. Et de ma part provocateur. Vous jubilez de dire ce mot comme ça, très poliment.
La provocation est une forme de distraction.
Oui, je vois bien.
C'est une forme de distraction, et puis j'en tire aussi des leçons.
Vous dites ça avec un grand sourire.
Non, parce que je pense à toutes les blagues que j'ai faites et toutes mes provocations. Et sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte finalement, mes provocations, c'était en fin de compte la meilleure publicité que je puisse m'imaginer.
En tout cas, il y a un moment, vous en avez ras-le-bol de tout ça, et vous décidez de quitter New York, et là, vous décidez de partir dans le Grand Nord canadien pendant plusieurs années, et c'est des années que vous avez appelées mes années boucherie.
Oui.
Chez nous, maintenant, on tue le matin. Et jusqu'à midi, on le tuait, l'échauder, le peler, et le vider, et laver les boyaux. On lave les boyaux tout de suite, et après on mange à midi, et on recommence chez nous à le dépecer. Mais ça, c'est la méthode nouvelle. Autrefois, c'était passé. Et on a commencé à le dépecer que le lendemain, quand la viande était froide. Mais maintenant, on n'a pas le temps, alors on le fait tout de suite.
Et je ne crois pas que ce soit bon de tuer le porc et de le couper le même jour.
Oui.
D'ailleurs, la viande, elle est davantage humide, elle coule.
Alors ça vous plaît?
Alors ça c'est formidable, c'est pour tout à l'heure.
Ah ça c'est, c'est des histoires de cochons.
Non, parce que vous savez que j'avais un studio à Montréal pendant assez longtemps, à l'époque de la foire mondiale. Alors évidemment le Canadien français, j'adore ça.
C'est des Français là que vous entendez.
Oui, oui, oui.
C'est des Français, des paysans français qui parlent donc de...
Non, mais
de tuer le cochon.
Oui.
Et c'est parce qu'en Nouvelle-Écosse, en fait, donc j'ai lu votre livre Nos années boucherie.
En anglais ou en français?
En français.
Parce que je l'ai écrit en anglais, celui-là.
Je suis désolée, je l'ai lu en français.
Non, c'est pas votre faute.
Mais alors, vous êtes tombé dans l'endroit le plus désolé de la Terre. Vous avez vécu avec des hirsutes, frustres, alcooliques, brutes, cruelles.
Bon, c'est-à-dire que il ne faut pas juger le Canada, ni la Nouvelle-Écosse, ni la Terre-Neuve, selon ses normes. C'était le seul, sans doute encore le seul endroit dans tout le Canada où je débarque, Le poste de police était barricadé, donc fermé. Parce qu'il ne pouvait plus contrôler la ville.
Ah.
Donc on pouvait tuer, on pouvait faire n'importe quoi.
En tout cas, vous avez été heureux pendant...
C'était l'aventure.
Ah oui, c'est ça.
À fond, hein, carrément.
Et vous étiez quasiment autonome et vous tuiez le cochon.
Oui, mais enfin, la nourriture, même au supermarché, était tellement pitoyable. C'est qu'on a décidé, ma femme et moi, de faire notre propre élevage. Hein. Alors, comme vous l'avez lu, nous avions de tout. Des
canards, des oies, des cochons. Trucs.
Et alors, quand il a fallu tuer le cochon, il n'y avait personne pour le faire. Alors, j'ai dû bien l'apprendre.
Ça
m'a bien réussi.
Vous avez fait des jolis dessins de cochons.
Et le deuxième cochon que j'ai tué, j'avais 400 différents sur les mains.
Pourquoi ?
J'avais d'abord le sang du cochon.
Ouais.
Et alors j'ai regardé et dehors il y avait des chiens parce que j'avais des moutons. Et alors là, par la distraction, je me suis coupé, donc j'ai mélangé mon sang avec le sang du cochon. Et puis ensuite, je suis allé pour achever le chien que j'avais descendu. Et il y a un canard à moitié mort qui avait été descendu par les chasseurs. Je lui ai encore écrasé le crâne pour qu'il souffre plus avec un rocher. Et puis je suis arrivé à mon chien et je lui ai donné le coup de grâce. J'avais donc sur les mains du sang de cochon, du sang de chien, du sang de canard et le mien.
Et vous habitiez au bord de l'océan?
Ah oui, au bord de la mer, ça oui. Hein.
Et vous, c'est vrai que vous ne pouviez pas rentrer chez vous, vous ne pouviez rentrer chez vous qu'à marée basse.
Il fallait attendre la marée basse pour y aller, oui.
Et alors la tempête, vent, blizzard, l'aventure, quoi. Vraiment, vous avez raison, l'aventure.
Oui, maintenant que j'y pense, c'était quand même à risque. Hein.
Oui. Ah ben, ce que vous décrivez, en tout cas, ça, c'était pas douillet.
Mais vous savez, pour en revenir encore aux États-Unis, pour faire encore une petite marche arrière, là.
On retourne à Long Island.
J'avais quand même une maison à Long Island, qui était au bord de la plage. À l'époque, j'étais vraiment connu pour mes cerfs-volants. J'avais même eu une grande exposition de mes cerfs-volants sur la 5e avenue. Et puis, j'avais un matin, non, parce que là, nous en revenons à la ligne d'horizon, qui est quand même notre point de départ. Et alors là, j'avais fait un cerf-volant à peu près, je dirais, de 4 mètres d'envergure au moins, énorme. Et ce que j'avais fait, j'ai pris un grand bidon d'huile, vous savez, les grands bidons,
ouais.
Et j'ai donc largué ce cerf-volant, on peut dire largué,
ouais,
oui, largué le cerf-volant.
Ouais.
C'était le matin alors que le vent soufflait du continent sur la mer.
Ouais.
Et j'ai donc attaché ce cerf-volant au bidon, et le cerf-volant a traîné donc ce bidon
sur la mer
vers la ligne d'horizon. Le cerf-volant est parti avec son bidon à 10h le matin et vers 4h, 5h du soir, il a disparu derrière la ligne d'horizon. Je m'imagine un bateau qui voit passer comme ça un cerf-volant. Et alors je me suis dit à l'époque, justement, c'est la relativité de toutes les choses. Pour moi, il y a une ligne d'horizon. Mais le cerf-volant qui traverse, qui a passé ma ligne d'horizon, que
il
je
a
vois,
sa ligne d'horizon
il
à
est
lui.
De l'autre côté de la ligne d'horizon. Et qu'est-ce qu'il voit? Une autre ligne d'horizon.
Donc l'horizon
et
est
ça,
infini.
Et ça, c'est quand même passionnant. C'est que, en fin de compte, derrière une ligne d'horizon, vous en avez une autre, et vous en avez une autre, et elles se succèdent. C'est vraiment un passage à la ligne.
Ah oui.
Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été, salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés, à garder les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bouses qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadaptée. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis inadaptée. Je suis adaptés.
Une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter et on est toujours avec vous, Tommy Ungerer. Et je ne m'ennuie pas. Alors, on est parti de la Normandie. On est allé sur un cargo, ensuite on est allé à New York, ensuite on est allé en Nouvelle-Écosse. Mais dans tous ces ports et dans tous ces lieux, il y a un lieu que vous aimez par-dessus tout, une ville que vous aimez par-dessus tout, c'est Hambourg. Pourquoi ce port, il vous plaît tant?
La ville de ma vie, ça a toujours été New York et ça le restera.
Ouais.
Mais Hambourg, c'est aussi une ville portuaire. C'est une ville portuaire où j'ai beaucoup travaillé parce que la plupart, une grande partie des éditeurs et toute la presse allemande est à Hambourg.
Mais moi, je croyais que vous aviez un amour particulier pour Hambourg et pour toutes ces femmes, ces prostituées, avec lesquelles vous aviez trouvé une forme de famille pour vous,
femmes. Oui, absolument. Ça, c'était certainement un élément qui m'a fait aimer Hambourg.
C'était
justement, oui, dans la Herbertstrasse. Et donc, c'est une rue de femmes libres.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a que des bordels avec des devantures. Et dans chaque bordel, il y a une domina avec sa chambre de torture.
Alors, une domina, c'est une femme qui fait du SM.
Qui administre la torture et qui n'est jamais touchée par les clients.
Ouais.
Dans le fond, elles font le travail que le psychiatre ne peut pas faire. Il y a des gens qui appellent ça des perversions. Moi, je refuse d'utiliser ce mot-là. Ce sont des gens qui sont malades et qui ont des sérieux problèmes.
Ah, c'est dans ce sens-là que vous parlez de psychiatre.
Et ce n'est qu'en allant voir une dominatrice qu'ils peuvent, disons, exaucer leurs besoins. Et là, j'ai découvert un monde de femmes étonnantes. J'ai aussi habité au bordel.
Vous les avez dessinées?
Énormément. J'ai sorti un livre qui s'appelle « Les anges gardiens de l'enfer ». Et c'était vraiment comme si on vivait dans un village. Et alors, ce que j'ai aussi découvert, c'est que c'était surtout l'entente entre ces femmes, la solidarité. Chaque tenancière de bordel, c'était donc une femme. Elle se visitait constamment d'une maison à l'autre, etc. J'ai vécu vraiment de très bons moments avec ces femmes. Et je dois dire que je suis absolument partisan de la prostitution tant qu'il n'y a pas de macro et d'entremetteur. L'entremetteur, c'est ça. Parce qu'une femme, pourquoi ne serait-elle pas libre d'avoir ce métier? Alors évidemment, il y avait les femmes qui travaillaient de ce qu'on dit en allemand normal, et puis les autres femmes qui étaient spécialisées. Voilà.
Alors ça, c'est un petit cadeau.
Ah ça, oui, ça c'est Après le vent, c'était encore l'un de mes sons, disons, le plus préféré. On appelle ça comment en français, des cornes de brouillard?
Les cornes de brume.
Ah, des cornes de brume, excusez-moi, oui, non, évidemment c'est les cornes de brume. Des fois vous savez, je n'ai parlé que l'anglais depuis 3 mois, alors maintenant il faut que je remette le cornes. Oh, ça c'est vraiment une chose qui me berce. Et puis il y a une chose que j'adore, peut-être la chose que j'adore le plus après l'océan, c'est le brouillard.
Alors, je crois que vous êtes servi, là. Votre livre.
Mon dernier livre d'enfance, c'est un hommage au brouillard.
C'est un hommage au brouillard et ça se passe en Irlande, je crois.
C'est un hommage à l'Irlande. C'est mon hommage à l'Irlande.
Et j'ai eu l'impression que vous aviez dessiné ce que vous voyez de vos fenêtres en Irlande. Il paraît que vous habitez dans un endroit absolument... sauvage.
Oui, enfin, sauvage, c'est-à-dire je vis sur la première pointe qui est touchée par le Gulf Stream en Europe.
Ouais.
Et je suis pratiquement dans l'une des dernières maisons les plus rapprochées du continent américain. Et c'est curieux parce que vis-à-vis, c'est la Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse où je vivais.
Et en face de vos fenêtres, c'est l'océan?
C'est l'océan et les falaises. C'est dramatique.
Déchiqueté?
Oui, et devant la maison, on dit que c'est le plus grand cimetière marin d'Irlande. Parce que nous sommes dans une énorme baie où la marée s'engouffre. C'est-à-dire que nous sommes en première loge de toutes les tempêtes qui déferlent sur l'Europe.
Et vous aimez ça, vivre là?
Je dirais qu'après les canyons de Colorado, ah ouais. Les tempêtes, c'est le plus grand spectacle qu'on puisse imaginer.
Ça veut dire que là, en Irlande, vous vous mettez derrière vos fenêtres pour regarder les tempêtes?
Oui, 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 absolument. Je ne sais pas, c'est plus que regarder.
Vous observez, vous êtes dedans.
Oui, c'est presque... On ne peut pas dévorer une tempête, étant donné que c'est elle qui vous dévore. Non, non, il faudra que je trouve un autre mot.
Mais vous êtes dedans, c'est ça? Vous êtes
voilà,
dans la tempête,
voilà.
Vous êtes dans le tourment, vous êtes
Disons que j'éponge la tempête.
Vous épongez la tempête.
Voilà, j'éponge la tempête. Mes yeux épongent la tempête.
Voilà. Alors, vous savez que le directeur de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix, est venu vous voir chez vous en Irlande.
Oui, 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 oui.
Et il dit que vous habitez un lieu inhabitable. Presque inhabitable.
Ben, quand on est arrivé là-bas, je dois dire que les habitants ont fait des paris dans les pubs qu'on ne tiendrait pas une année.
Et là, ça fait combien de temps que vous y êtes?
45 ans.
Donc ils ont perdu.
Ah oui, non, je suis tombé. Pour moi, l'Irlande, vous savez, dans le fond, il y a trois découvertes dans ma vie. C'est donc l'océan, ensuite j'ai eu New York, et ensuite il y a eu l'Irlande.
Et alors,
parce que pour moi, Alsacien, l'Irlande, ça a été un soulagement. C'est une société où il n'y a pas d'arrogance, et on ne ressent aucune différence entre les classes sociales. Et alors aussi, je collectionne les humours, n'est-ce pas? Comme l'humour irlandais, l'humour juif, l'humour noir de New York, hein. Excusez-moi bien, avec la ségrégation, on ne peut pas survivre sans humour. Mon humour à moi, dans le fond, c'est... Je l'ai noirci avec l'humour des autres.
Et alors, vous aimez bien faire de l'humour avec les enfants. Et c'est ça que vous avez fait aussi dans le dernier livre qui vient d'être publié. Donc, et c'est parce que cet Alexandre Lacroix, donc du directeur de Philosophie Magazine, vous a proposé de tenir une rubrique dans la revue pour répondre aux questions des enfants.
Oui.
De cette rubrique est né un livre, votre dernier livre, où vous répondez avec humour, de tous ces humours-là, aux enfants, aux questions que se posent les enfants.
Oui, vous savez, je suis ludique comme un enfant. J'ai arrivé à garder une certaine innocence. Je pense qu'il est essentiel pour les adultes de parler ou d'avoir un contact avec les enfants comme avec des égaux.
Et c'est comme ça que vous leur répondez dans ce dernier livre.
Absolument. J'ai toujours parlé aux enfants en égo.
Alors, il y a une petite fille, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, qui vous demande « C'est quoi l'esprit ? Le courant de mon corps ?» Et vous lui répondez finalement « Oui, si on te branche sur une ampoule.
» Je savais pas. Vous savez, dès que j'ai sorti un livre, j'en ai sorti plus de 140, on m'a
Donc
dit.
Donc vous avez oublié?
Non, je ne revois pas un livre et tout ce que vous me dites là, je l'ai complètement oublié.
Bah, en tout cas, c'est ce que vous avez répondu à cette petite fille.
C'est assez joli quand même, en fin de compte.
Bah, c'est assez joli, oui, se brancher sur une ampoule pour avoir de l'esprit.
Oui.
Dites-moi, Tommy Ungerer, voilà. Est-ce que vous dessinez tout à l'heure, vous me parliez des tempêtes en Irlande, comment vous les épongiez, et est-ce que vous dessinez face à cet océan en Irlande? Est-ce que vous dessinez face
non.
à...
Non.
Ah bon?
Non, l'Irlande, ça m'inspire pour écrire.
Pas de dessin?
Pas pour le dessiner, pas du tout. J'ai essayé. Mais la grandeur, l'espace, etc., je n'arrive pas à mettre sur le papier ce que je ressens en Irlande vis-à-vis du paysage, de la lande et de toutes ces choses-là.
Tellement c'est fort.
Avec les mots, oui. Et là, il faut quand même comprendre l'Irlande avec 4 millions d'habitants. Regardez ce que ça donnait en littérature. Mais c'est pas croyable. Tous les prix Nobel, l'Irlande, c'est ce qu'il y a comme écrivain, comme production culturelle qui sort de l'Irlande chaque année, ça dépasse les normes.
Et vous pensez que c'est pour ça que vous ne dessinez pas là-bas?
Ah non.
Vous êtes devenu un peu irlandais?
Je dois dire que je me suis vraiment mis à écrire depuis que je suis en Irlande, voilà.
Ah, alors moi je vous imaginais.
C'est curieux, mais écoutez... Non, on retrouve toujours ma ligne d'horizon dans beaucoup de dessins, dans beaucoup de concepts, etc. Et bon, évidemment, dans mon dernier livre, là, sur le brouillard, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un livre, c'était sur l'Irlande et le brouillard. Donc,
je l'ai lu, c'est avec des enfants qui se perdent dans le brouillard.
J'ai quand
brouillard.
Même travaillé mes ciels irlandais. Il y a quand même des dessins où j'ai des ciels et des horizons irlandais.
Gris un peu.
Oui,
hein.
Oui. Ah oui, j'adore.
Gris en tracite.
Vous savez, pour moi, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un ciel bleu sans nuages.
Alors vous êtes servi.
C'est un ciel sans histoire. Alors là, l'idée de m'allonger sur une plage sous un ciel bleu, mais c'est pas un ciel, c'est un couvercle.
Sur France Inter.
Tommy Ungerer, vous n'êtes pas content parce que je n'ai pas passé la mer de Charles Trenet.
Non, c'est pas ça, mais vous savez, chacun est sentimental à sa façon.
Et vous,
moi,
vous aimez la
jeune,
mer.
Pour moi, la chanson de Charles Trenet, c'était pour moi la plus belle chanson française à l'époque. Carrément. Elle est ponctuée de bergères d'azur.
Ah. Je vais tirer le fil de l'année 1946, Tommy Ungerer. Cette année où vous avez donc découvert la mer pour la première fois. En 1946, a eu lieu à Londres la première assemblée générale de l'ONU.
Ah bon? Oui.
En 46 aussi, la Cour internationale de justice s'installait à La Haye. On nationalisait les houillères de France. On généralisait le principe de la sécurité sociale pour tous les Français. En 1946, on inaugurait le premier festival de Cannes après-guerre.
Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays. Dans cette compétition pacifique, quelle place emportera le cinéma français aux prises avec le cinéma américain, qui est peut-être venu défendre Grace Moore, et avec le cinéma soviétique?
Ah oui, à l'époque, on parlait encore du cinéma soviétique.
Bah oui, c'était l'Union soviétique. Oui, oui. C'était l'heure de gloire.
Alors,
même.
Vous savez, je collectionnais toujours les chansons. Et puis, il y avait une époque d'après-guerre. Vous avez une chanson communiste.
Laquelle?
Je vais vous la chanter juste la première fois.
Allez-y.
Non, jamais les dockers ne combattront l'Union soviétique.
Mais je la connais pas, celle-là.
Quand la chanson tombe dans le ridicule, c'est savoureux.
Est-ce que vous savez que Le film qui a remporté le grand prix à ce premier festival de Cannes après-guerre, c'était Rome, ville ouverte, de Rossellini.
Ah oui, c'est un excellent film, oh là là.
Avec cette magnifique...
C'était la belle époque, la grande époque, voleur de bicyclettes et tout ça.
Ouais, c'est cette année.
Oh là là. Ah oui.
Alors, je continue, Tommy. Voilà. Le 1er octobre 1946, le tribunal de Nuremberg condamnait les 10 principaux chefs nazis à la pendaison. La sentence, elle sera exécutée le 16 octobre 1946, sauf pour Göring, vous vous en souvenez?
Oui, qui c'est, oui.
Qui s'est suicidé dans sa cellule la veille de l'exécution. Oui. Ça, vous vous en souvenez?
Ah, ça et comment, hein?
Vous aviez 15 ans, hein. Vous avez suivi le procès de Nuremberg.
Ah, ça, oui, ça, oui.
C'est de l'émotion encore.
Vous savez, il y a des crimes qui sont tellement abominables. Il n'y a pas de punition pour, en fin de compte. Je crois me rappeler, je ne suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai pensé par la suite, c'est que la peine de mort, c'est trop bien.
Pour eux, c'était trop bien.
Ah non, non.
Et pas suffisant d'une certaine manière, c'est ça que vous voulez dire.
Et vaut mieux la perpétuité. Alors ils font toutes ces saloperies, etc. Et puis et alors on les liquide, on les guillotine, et puis et tout est réglé, on les appuie sur le dos. mais qu'on leur donne un petit peu le temps de réfléchir, non ?
C'est pour ça que vous auriez préféré qu'ils soient condamnés à la perpétuité.
Ah, ça, oui. Et pas de façon confortable, non plus. Donc, je ne suis pas un sadique, mais enfin, quand même,
Mais j'allais justement vous faire écouter, parce qu'en 1946, il y a aussi eu le procès du Gauleiter Wagner, c'est-à-dire celui qui était le gouverneur de l'Alsace,
ah,
celui
ça,
qu'on a appelé le bourreau de l'Alsace.
Ah oui, il a été fusillé à la Wanzenau.
Eh bien, lui aussi, il a été condamné à mort.
Oui,
vous
absolument.
Voyez, vous voulez écouter cette archive-là ou pas ?
Non.
Ça
alors
suffit,
là, ça me suffit, hein, vraiment, franchement, avec tous ces...
Ça suffit.
Vraiment, oui.
Alors on revient à aujourd'hui.
Oui, j'ai passé toute ma vie à me battre pour des causes, etc. Et justement pour que ce genre de choses ne se répète pas. Ou elles continuent à se répéter. Hein. Mais enfin bon.
Revenons à l'horizon.
Oui, revenons à l'horizon. Voilà.
Vous avez reçu en 2014, Tommy Ungerer, la Légion d'honneur.
Oui.
Et je me demandais ce que ça vous avait fait.
Ben, ça m'a rassuré.
Parce que vous n'êtes jamais sûr de vous.
Non, ça m'a même fait un bien énorme. C'était à l'époque, j'avais encore des lettres anonymes de Français qui me disaient « Salboche, tu reviens en France, on va te descendre ».
Non.
Parce que je me battais pour le bilinguisme. Et puis alors, vous savez, ma fameuse phrase, l'Alsace c'est comme des cabinets, c'est toujours occupé. Il y a des gens qui ont pris ça très à mal. Moi, je sais pas, je revenais à Strasbourg, j'étais dans l'appartement de mon frère, mais chaque matin, je regardais dans la rue avec ma femme pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un pour me descendre.
Mais jusqu'à
et
quand
et le jour où j'ai eu la Légion d'honneur, j'étais un bon Français.
Ah, ça vous a plu d'être un bon Français?
Non, et puis en plus de ça, il faut voir ce que j'ai aussi fait quand même. J'étais un pionnier de l'amitié de franco-allemande. Je me suis dédié à cette œuvre-là. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Lang de façon très étroite au ministère. J'étais chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et d'abord au ministère de la Culture.
Mais ça vous plaît d'être un bon Français? Ça vous plaît qu'avec
mais
cette...
Non, écoutez, il n'y a pas de différence entre un bon Français, un bon Irlandais ou un bon Allemand. Tout ce qu'il faut, c'est simplement d'être bon. Ou d'essayer d'être bon.
Bon. Et vous avez essayé d'être bon?
Oui, j'essaie, à ma façon.
En piquant une petite colère par-ci, une petite colère par-là.
Oui, hein? Ça oui. Alors là, je ne suis pas bon.
Mais là, vous restez bon quand même dans l'ensemble. J'ai une question à vous poser, et c'est ma dernière question, Tommy. Vous dites, plus je dessine, plus je m'oublie. C'est vrai, cette phrase?
Ah non, c'est pas seulement pour le dessin, c'est aussi pour quand j'écris.
Vous vous oubliez?
Oui, là j'arrive à m'oublier, et puis même les problèmes de santé, c'est quand même curieux.
Et donc c'est comme une libération?
Oui, c'est une échappatoire en fin de compte. Quand je travaille, je tiens dans mes mains un pot d'échappement.
Le stylo, c'est un pot d'échappement.
Voilà.
Vous aviez une petite phrase à me dire avant qu'on se quitte,
oui,
c'était quoi?
Oui, je voulais simplement dire que je suis vraiment un obsédé de la mer, et même quand je prends un bain, je suis une île dans ma baignoire.
Eh ben moi, ça me va bien pour terminer. Merci, Tommy Ungerer, d'avoir passé.
Oui, mais quand je vis de la baignoire, c'est la marée basse.
Votre dernier livre, Ni oui ni non, est publié encore une fois à l'École des loisirs. Merci, Tommy Ungerer, pour cette belle rencontre. C'était la rediffusion de l'émission du 8 avril 2018, en hommage donc à Tommy Ungerer qui vient de disparaître. Tommy Ungerer n'est plus là, mais il nous reste ses livres à dévorer sans modération. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard et Hélène Bizio, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique Julien Michel et Michel Bézikian. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. Tout de suite, après le flash, vous retrouverez Vincent Josse et son grand atelier à la semaine prochaine.